Alors, on va commencer notre 52e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Aujourd'hui, on va regarder le calvinisme et le pentecôtisme charismatisme. Alors, comme on avait déjà expliqué dans les leçons précédentes, on est en train de regarder le calvinisme et de le situer par rapport aux grandes tendances religieuses du monde. Alors, on a entrepris au cours de nos dernières leçons, vraiment, de le situer par rapport aux grands mouvements religieux de notre époque. Alors, on a regardé, par rapport au fondamentalisme chrétien, on a regardé la semaine dernière le néo-évangélisme. Cette semaine, on regarde le pentecôtiste charismatisme. Et il va nous rester encore une leçon de situer l'écuménisme, qu'est-ce que c'est, et c'est quoi ses forces, et c'est quoi ses faiblesses et ses misères. Alors, aujourd'hui, on va étudier le pentecôtiste charismatisme. On va regarder un peu leur histoire, leurs caractéristiques, leurs croyances et leurs erreurs. Bien entendu, il faut mentionner que quand on fait une étude comme ça, c'est vraiment une étude très, très à vol d'oiseau, comme on peut dire, parce que étudier le mouvement pentecôtiste charismatique mondial depuis sa fondation, ça serait un travail énorme. Mais on va regarder quand même les principales choses. Alors, on va ensuite examiner comment les calvinistes doivent se situer par rapport à eux. Devrait-on collaborer, dénoncer leurs erreurs ou complètement se séparer d'eux? Quelle attitude devrions-nous adopter face à eux? Alors, on peut définir le pentecôtisme charismatique comme un important mouvement d'envergure internationale et aussi interdénominationnelle. Le regroupement offre parfois plusieurs aspects spectaculaires. Par exemple, souvent dans le milieu, on va affirmer qu'il y a eu des guérisons, la glossolalie, bien sûr, ça c'est de parler en langue. Et souvent dans ce milieu-là, on va voir l'apparition de phénomènes étranges, etc. Alors le mouvement, comme de raison, est fortement controversé, mais il est aussi en pleine croissance. Ils ont tendance à favoriser les initiatives écuméniques et d'inclusivisme. Alors, l'inclusivisme, c'est simplement un mot qui veut dire qu'on est ouvert à s'unir avec les autres religions du monde. Alors, en général, c'est ça qui se produit dans ces milieux-là. Alors, d'où viennent-ils historiquement? Est-ce nouveau ou fortement enraciné dans l'histoire de la chrétienté? Ont-ils un tronc commun de croyances? Quelles sont les pratiques qui les caractérisent? Peut-on travailler avec eux? Peut-on participer à leurs activités et à leurs œuvres? Quels sont nos devoirs envers eux? Alors, on va examiner brièvement toutes ces choses. Alors, la première question qu'on va regarder, le pentecôtisme charismatique, qui sont-ils? Alors, on se posait la question tantôt, est-ce nouveau? On va voir que oui, c'est nouveau dans un certain sens, mais dans un autre sens, ça a une longue tradition historique. Alors, on doit comprendre que certaines pratiques du pentecôtisme ont des origines très lointaines historiquement, comme le montanisme, les Quakers, etc. Alors, le montanisme, si on regarde universalisme.fr, ils vont donner une définition, qu'est-ce que c'est. Alors, c'est un mouvement spirituel prophétique et eschatologique qui apparaît en Phrygie au milieu du 2e siècle, dès 156-157, selon Épiphane, en 172 seulement d'après Eusèbe. Alors, un certain Montanus, néophyte, qui aurait été prêtre de Cybèle, se prétend l'organe du Paraclet. Alors, le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Sinon, le Paraclet lui-même. Alors, voyez-vous, il se disait influencé par le Saint-Esprit et il allait jusqu'à dire qu'il était le Saint-Esprit lui-même. Alors, c'est pas une petite affaire. Il annonce un nouvel âge de l'Église, l'âge de l'Esprit et l'imminence de la fin des temps. La Jérusalem nouvelle doit descendre du ciel près de la ville de Pépuse en Phrygie et le Seigneur régnera avec les élus durant 1000 ans. Alors Montanus se fait accompagner de 2 femmes, Priscilla et Maximilla, des prophétesses elles aussi. Pour se préparer à cette venue, il faut, selon eux, pratiquer un ascétisme rigoureux, multiplier et prolonger les jeûnes, s'abstenir de viande et de vin, et la continence parfaite est recommandée, et les secondes noces absolument prohibées. Le pardon de l'Église est refusé au péché grave. Alors, on voit qu'il y a plusieurs erreurs déjà d'entrée dans ce mouvement-là. Et alors, bien sûr, d'autres chrétiens ont examiné leurs croyances et souvent, ils ont été considérés comme hérétiques par beaucoup de chrétiens de l'époque. Un autre mouvement historique où on peut regarder des influences de pratiques pentecôtistes, les Quakers. Quakers veut dire trembleurs. Alors aujourd'hui, quand on regarde à Toronto, par exemple, quand il y en a qui font des sermons, il y en a qui se mettent à trembler dans l'esprit. Alors les Quakers, c'est quand même un mouvement religieux qui a été fondé en Angleterre au 17e siècle, donc les années 1600. On voit que ça fait quand même longtemps que ça existe. Alors c'était des dissidents de l'Église anglicane. Durant les toutes premières années, les Quakers se voyaient comme faisant partie du mouvement de rénovation de la vraie Église chrétienne après des siècles d'apostasie. Alors, on voit que cette idée-là est récurrente dans l'histoire. Il y a toujours un groupe qui croit qu'ils sont les véritables croyants, que tous les autres sont dans l'apostasie. On a vu ça avec les Quakers, on va revoir ça avec les frères chrétiens. Les frères chrétiens ont fait exactement la même chose un petit peu plus tard, dans le 19e siècle. Là, on voit qu'il y a toujours eu des groupes comme ça qui croyaient. Alors, parmi les noms qu'ils se donnaient à l'époque, on trouve Saints, Children of the Light, ou Enfants de Lumière, Friends of the Truth, Amis de la Vérité, reflétant l'importance centrale dans la théologie Quaker d'alors, du Christ comme lumière intérieure qui vous montre votre vraie condition. Le nom de Quaker, littéralement ça veut dire trembleur, fut utilisé pour la première fois en 1650 lorsque George Fox comparut devant un juge sous l'accusation de blasphème. Selon le journal de Fox, c'est le juge Gervais Benson qui, par dérision, nous donna ce qualificatif parce que je lui avais dit de trembler au nom du Seigneur. Une référence aux Écritures, peut-être Ésaïe 66:2 ou Esdras 9:4. Par ailleurs, lors des réunions de culte, la lumière intérieure se manifestait non seulement par des discours improvisés, mais parfois par des tremblements de ferveur. Entre le jugement ironique et l'expérience vécue, le surnom de Quaker fut finalement adopté par les adeptes du mouvement. Alors, on sait que même à la fondation des États-Unis, les Quakers avaient beaucoup de difficultés avec les puritains, parce que c'était vraiment comme deux philosophies. On ne rentrera pas dans les détails, mais on voit qu'il y avait déjà comme des gens qui avaient adopté des pratiques et des croyances de nature pentecôtiste. Maintenant, quand on parle du développement moderne, quand on dit tantôt « est-ce que c'est nouveau? » Non, ce n'est pas nouveau. Cours d'histoire, il y en a toujours eu, mais le développement moderne du mouvement pentecôtiste charismatiste, ça, c'est vraiment nouveau. Alors, le développement moderne a eu lieu en trois vagues. Alors, les leaders actuels du pentecôtisme, du charismatisme et du mouvement de croissance de l'Église découpent l'histoire de ces mouvements en trois grandes périodes qu'ils qualifient chacune de vagues du Saint-Esprit. Alors, vraiment, si vous entendez parler de la troisième vague, et la première vague, qu'est-ce que c'est? La deuxième vague, qu'est-ce que c'est? La troisième vague, qu'est-ce que c'est? On va regarder ça, on va voir que, dans le fond, quelqu'un qui est moindrement observateur de la scène religieuse américaine ou même mondiale va se reconnaître là-dedans. Alors, par ce terme de vague, ils entendent un mouvement extraordinaire qui atteint une partie importante et particulière de la population et qui en modifie profondément le climat spirituel. Alors, on a vu tantôt, ça c'est important pour retenir, là, parce que on a dit pentecôtiste, charismatiste, mouvement de croissance. Les trois vagues, c'est vraiment ça. L'arrivée du pentecôtisme moderne, ensuite le développement du charismatisme dans d'autres dénominations, et la dernière, c'est vraiment ce qu'on appelle le Church Growth Movement aux États-Unis, surtout, et dans le monde entier. Alors, ces choses-là vont porter trois noms différents. Alors, ce qu'on peut qualifier de christianisme charismatique est une forme de christianisme qui veut mettre en valeur les charismes, du grec charis, qui veut dire grâce ou don du Saint-Esprit, que l'on trouve notamment dans les épîtres de Paul. Ce courant est caractérisé en trois mouvements. Le pentecôtisme, qui est la première vague, et ça a commencé en 1906. Le mouvement charismatique, qui est la deuxième vague, qui lui a commencé en 1960. Et le mouvement néo-charismatique, et ou Church Growth, qui est, lui a commencé en 1980. Alors, selon les chiffres de la World Christian Encyclopedia, les pentecôtistes sont au nombre de 78 millions, les charismatiques de 192 millions et les néo-charismatiques de 318 millions. Alors, selon le Pew Research Center, en 2011, les pentecôtistes sont au nombre de 279 millions et les charismatiques de 305 millions. Alors, si vous additionnez ça, vous êtes rendu à 600 millions de personnes dans le monde qui sont de tendance pentecôtiste ou charismatique. Si vous prenez les deux ensemble, c'est 600 millions. C'est énormément de monde et, comme on a dit tantôt, ce n'est pas un mouvement qui s'en va en décroissance, c'est un mouvement qui est plutôt en croissance, qui monte en flèche. Alors, c'est sûr qu'ils vont avoir de l'influence sur le mouvement chrétien. Alors, on va parler maintenant de la première vague, donc le pentecôtisme, qui a commencé au début des années 1900. Alors, deux figures centrales sont mentionnées comme étant importantes dans le développement et la propagation rapide du pentecôtisme. Il s'agit de Charles Fox Parham, et lui, c'est un pasteur blanc de religion méthodiste. Et il est devenu populaire à Topeka, Kansas, avec un ministère de guérison vers 1901. Et, ça je l'ai lu à part, il n'est pas dans le texte, l'autre, c'est un noir qui avait eu, il ne pouvait pas entrer dans, parce qu'à cette époque-là, la ségrégation était forte, il ne pouvait pas entrer pour écouter Charles Fox Parham, mais il était en arrière de la porte et il entendait son... Et on voit que le mouvement pentecôtiste a vraiment gardé des tendances qui sont originaires de ces deux hommes-là. Un, le mouvement de religion, un pasteur blanc de religion méthodiste, et le deuxième, alors lui a vraiment développé, Charles Fox Parham, développé une théologie de la guérison par le Saint-Esprit et de la doctrine du signe initial suivant le baptême du Saint-Esprit, le parlant en langue. Alors lui a développé l'idée que quand tu deviens chrétien, tu es régénéré, mais le signe que tu es vraiment régénéré, selon eux, serait la glossolalie ou le parler en langue. Et l'autre doctrine qu'il a vraiment développée, c'est celle de la guérison pour le Saint-Esprit. Alors, quand vous regardez le mouvement charismatique pentecôtiste moderne, on voit que ces deux idées-là sont encore vraiment... Alors, on voit l'influence dans le temps. Alors, il enseignait que le parler en langue est une deuxième manifestation et une preuve de la première manifestation, soit la conversion. Alors, selon eux, quelqu'un qui est converti, qui ne parle pas en langue, c'est comme s'il n'y avait pas de preuve de sa conversion. Alors, on voit que ça peut emmener les gens très loin. La deuxième figure est le pasteur noir William Joseph Seymour, né le 2 mai 1870 à Centerville, Louisiane, États-Unis, mort le 28 septembre 1922 à Los Angeles, a été le premier pasteur pentecôtiste et un défenseur de l'égalité raciale. Il est à l'origine, le leader à l'origine du réveil qu'on a appelé Azusa Street en 1906 et considéré comme l'un des principaux fondateurs du pentecôtisme. Azusa Street, là, c'était au centre-ville de Los Angeles, et lui a commencé à développer dans ce quartier-là, et il prétendait qu'il y avait eu un immense réveil, ça allait attirer beaucoup de monde, et il était un des principaux. Azusa Street, prenez n'importe quel livre de théologie, si vous voulez savoir, puis ils vont toujours vous parler de Azusa Street en 1906, comme de quoi ça a été un important facteur de propagation du mouvement pentecôtiste aux États-Unis et après dans le monde entier. Alors ça, c'est vraiment les deux bonhommes là, qui ont vraiment influencé le départ de tout ça. Alors on qualifie souvent les théologies combinées de ces deux hommes d'évangile des quatre angles. Quand vous allez dans des livres, souvent, quand on parle de la première vague, deuxième vague, troisième vague, on appelle le mouvement, les idées de ces deux hommes-là rassemblées, on appelle ça l'évangile des quatre angles. Qu'est-ce qu'on veut dire par les quatre angles? Les voici. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus revient. Tout tourne autour de ces quatre choses-là. Alors, c'est bien important de les connaître parce qu'on va voir que, par exemple, la question de Jésus guérit, pourquoi il y a tellement d'importance chez eux de la guérison. Jésus baptise de l'Esprit, encore là, l'importance de la glossolalie parce qu'eux, ils croient que c'est un signe de l'évidence de ta conversion. Et Jésus revient, bien, il y a une grosse emphase dans le milieu pentecôtiste, souvent sur la deuxième venue de Christ. Alors, le premier angle, Jésus sauve, est le vecteur d'une théologie arminienne qui trouve son origine dans le méthodisme. Alors, on voit le pasteur méthodiste qui était un des grands propagateurs. Alors, bien entendu, sa théologie, elle a suivi à l'intérieur du mouvement. Alors, Jésus sauve, ça c'est un des angles. Le deuxième angle, Jésus guérit, revendique les guérisons miraculeuses comme preuve de la puissance de Dieu. Le pentecôtisme insiste sur la pratique de l'imposition des mains aux malades qui permet de manifester les charismes de guérison. Alors, vu que c'est un homme qui est devenu populaire et connu aux États-Unis parce qu'il disait avoir un ministère de guérison, bien entendu, mais il a très mal fini, des scandales dans sa vie. J'ai lu un petit peu là-dessus, mais je n'ai pas voulu développer cet aspect-là. En tout cas, c'est intéressant de le savoir quand même. Mais le fait qu'on insiste beaucoup sur les guérisons, ça venait de lui parce qu'au départ, il y avait un ministère de guérison qui était très populaire aux États-Unis. Alors, bien entendu, ça s'est intégré dans sa théologie. Le troisième angle, c'est Jésus baptise de l'Esprit. Alors ça, c'est sans aucun doute la caractéristique pentecôtiste par excellence. Le mouvement pentecôtiste insiste sur la nécessité pour le croyant d'être baptisé de l'Esprit. Et selon eux, ça veut dire le parler en langue. Alors cette expérience est affirmée comme distincte de la conversion. Et ce baptême est décrit comme un revêtement de puissance, un équipement nécessaire à une vie de témoignage efficace. Le pentecôtisme est à nouveau marqué par le concept de preuve de l'action de Dieu en affirmant que le signe extérieur visible de ce baptême est le parler en langue ou glossolalie. Alors, si vous voyez les implications théologiques de ça, ils sont en train de dire que ceux qui n'ont pas la glossolalie sont en train de dire qu'on n'a pas de preuve qu'on est véritablement régénéré. Et cette théologie-là, quand ça suit jusqu'à ses conséquences, bien, il y a quelque chose de grave qui s'installe. Et le quatrième angle, Jésus revient, insiste sur la différence entre l'enlèvement, le retour pour les siens. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le retour pour les siens, c'est véritablement un enseignement dispensationaliste. Alors, il dit que ça se fait en deux phases, selon eux. Alors, c'est vraiment une insistance assez profonde là-dessus. Alors, insiste sur la différence entre l'enlèvement, le retour pour les siens, et le retour en gloire du Seigneur, sa deuxième venue, ou le retour avec les siens. Alors, nous, quand on regarde l'ensemble des doctrines qui sont enseignées par le baptiste réformé, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça qu'on conteste. Premièrement, Jésus sauve. Nous, on n'est pas arminiens, on est calvinistes. Jésus guérit. On n'a pas la même conception de la guérison qu'eux. Jésus baptise de l'Esprit. Nous, on dit que la conversion, le baptême de l'Esprit, c'est en même temps. Et après ça, Jésus revient. Ils ont la conception dispensationaliste alors que nous, on ne l'a pas. Alors, on voit que les différences, déjà, dès le départ, sont déjà très importantes. Alors, le but, selon les auteurs qui ont étudié le mouvement, le but premier, la première vague, c'est eux-mêmes qu'ils disent, c'était de revêtir de la force divine seulement les pasteurs professionnels. Alors, le but de la première vague, c'était de convaincre des pasteurs, probablement avec l'idée que si je convainc un pasteur, je vais bien atteindre les gens aussi. Maintenant, la deuxième vague. Alors là, on peut dire que la première vague s'est développée jusqu'à dans les années 60. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je m'en souviens très clairement que dans les années 60, on a vu apparaître chez les catholiques et dans d'autres dénominations ce qu'on a appelé le charismatisme. Alors, les gens qui étaient catholiques, je me souviens, il y avait un prêtre à Grimby qui était, je ne me souviens plus de son nom, extrêmement populaire. À chaque semaine, il faisait une conférence. C'était rempli à craquer. Et c'était comme un genre de, de rassemblement de personnes qui parlaient en langue et tout cela. Ah, le père Gimbal, c'est ça, je me souviens de son nom. Alors, la deuxième vague, le mouvement charismatique des années 60. Alors, environ un demi-siècle plus tard, du premier mouvement, de la première vague, vers 1960, une deuxième vague est née aux États-Unis, a déferlé d'abord sur l'église presbytérienne par Dennis Bennett, puis sur l'église luthérienne par Larry Christensen, et sur la plupart des églises libres, et enfin, depuis 1966, sur l'église catholique. L'expérience du baptême de l'esprit ou du renouvellement de l'esprit est depuis lors enseignée et pratiquée officiellement. En Allemagne, ce mouvement connu rapidement sous le nom de mouvement charismatique remonte en 1963. Le terrain avait été préparé principalement par le pasteur Arnold Bittlinger et le prédicateur baptiste Wilhard Becker. Le mouvement charismatique avait pour but, non de former des églises charismatiques, mais de répandre les expériences charismatiques dans toutes les églises officielles et libres existantes. On peut dire aujourd'hui que l'Église protestante, l'Église catholique et la plupart des églises libres se sont ouvertes au mouvement charismatique, même si localement, certaines paroisses défendent un point de vue différent de celui de ce mouvement et résistent à la pénétration charismatique. Alors, selon eux, encore une fois, dans leur propre livre, ils disent que le but visé, alors il y a des buts en arrière de tout ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent à des choses et qui les poussent. Alors, le but visé, selon eux, à la deuxième vague, c'est de revêtir de la force divine les responsables laïcs. Voyez-vous le mouvement changer? Les leaders, pasteurs, après ça, les responsables. Donc, ça s'étend encore un petit peu plus large. Et on va voir que la troisième vague, elle a pour but d'universaliser tout ça. Alors, la troisième vague, c'est vraiment ce qu'on appelle l'évangélisation de puissance ou Church Growth Movement, alors depuis 1980. En 1980, le mouvement charismatique semblait avoir atteint son point culminant. Certains parlaient déjà d'une ère post-charismatique. Et David Watson, un évangéliste, auteur anglais bien connu et conférencier au Fuller Theological Seminary. Est-ce que ça vous sonne une cloche, Fuller Theological Seminary? Quand on a étudié la semaine dernière les fondamentalistes et quand on a étudié... Alors, on voit que c'est toujours les mêmes acteurs qui sont à quelque part là-dedans. Alors, il était conférencier au Fuller Theological Seminary sur les thèmes de l'évangélisation et du renouveau. Indiqua en 1980 à John Wimber les signes suivants de stagnation. On va voir tantôt que John Wimber, c'est vraiment une personne qui a vraiment poussé la troisième vague. Alors lui, il avait observé les choses suivantes dans la deuxième vague. Il disait, bon, il y a un déclin de l'assistance aux grandes conventions, tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Il y avait des divisions importantes entre les leaders. Il y avait un malaise général qui était marqué par le découragement et le mécontentement. Et alors, précisément, l'année même où la vague du mouvement charismatique perdait de sa vigueur, se formait la troisième vague du Saint-Esprit qui cherche à atteindre les églises conservatrices non charismatiques jusqu'à présent réfractaires aux deux premières vagues. Ici, remarquez bien le but visé. Atteindre les églises conservatrices et non charismatiques. Alors, on voit que les buts changent, mais déjà depuis 1910, après ça, 1960, une autre affaire, 1980, la troisième vague arrive. Alors, l'histoire de cette vague est étroitement associée au nom de deux hommes. Si vous lisez quelque peu l'histoire des pentecôtistes, C. Peter Wagner et John Wimber vont revenir immanquablement. Alors, J. Wimber voit la différence essentielle entre les trois vagues de la façon suivante. La troisième vague ne cherche pas à revêtir de la force divine seulement les pasteurs professionnels, qui étaient la première vague, ou les responsables laïcs, qui étaient la deuxième vague, mais tous les chrétiens. Alors, voici sa déclaration. Au lieu de n'outiller que les évangélistes, ceux qui ont le don de guérison, ou les responsables des communautés de maison, la troisième vague pourvoira tous les chrétiens de la puissance de l'Esprit, en particulier pour l'évangélisation personnelle et pour la guérison divine. C.P. Wagner, de son côté, considère qu'il existe une différence remarquable entre la troisième vague et les précédents, l'absence d'éléments générateurs de division. Ça, c'est un principe extrêmement important. Quand on a commencé la troisième vague, ils se sont dit « il faut éliminer tout ce qui peut être une source de division entre nous ». Autrement dit, l'unité à tout prix. Et quand on met l'unité à tout prix, bien sûr, on baisse les doctrines. Alors, c'est la dénivellation par le bas. Et quand on fait ça, bien sûr, on peut s'attendre à l'introduction de toutes sortes d'erreurs. Alors, plus loin, il ajoute, « La troisième vague se caractérise par un signe distinctif, fondamental. Elle veut à tout prix éviter les divisions. » Alors, selon Wagner, la seule voie spirituelle pour parvenir à cette unité entre les chrétiens consiste à revenir au message et à l'enseignement de la Bible avec le secours de la tradition de toute l'Église. Est-ce que vous voyez ce qui s'en vient? Là, il dit, oui, la Bible, mais il ajoute quelque chose de très important pour réunir tout ce monde-là. C'est non seulement la tradition de l'Église catholique, mais les traditions de tout le mouvement chrétien. Et tout ça, ça prend la même force, la même autorité que les Saintes Écritures. Alors, je ne sais pas si vous voyez où ce que ça mène, là, mais... Alors, on voit que c'est volontaire, ces affaires-là. Ça a été fait de façon volontaire. Ainsi donc, selon l'ancien principe de l'Église catholique, c'est la Bible et la tradition que devrait prendre cette unité possible. C'est pourquoi on ne trouve pratiquement pas de doctrine claire et précise dans les ouvrages de Wimber. On ne doit pas non plus s'étonner de le voir évoqué parmi les grands témoins de l'histoire en matière d'évangélisation de puissance, des figures telles que le pape Grégoire le Grand, Tertullien, qui est un montaniste, vous voyez où les liens? Après ça, Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, et de le voir s'appuyer même sur les miracles de Lourdes. Voyez-vous ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vouloir unifier le catholicisme et l'ensemble de toutes les religions à dénomination chrétienne. Alors, pour se faire une opinion sur la troisième vague, il est important de savoir que C.P. Wagner et G. Wimber ne considèrent pas seulement comme source de révélation de la théologie, la Bible et la tradition, mais aussi la Bible et l'expérience. Voyez-vous, il vient d'ajouter encore une autre affaire. Il avait la Bible, là, il ajoute la tradition, et après ça, il ajoute l'expérience. Autrement dit, quelque chose est valable si je l'ai expérimenté. Alors là, on voit que dans le milieu pentecôtiste, l'expérience tient une place extrêmement importante. Mais si tu mets les trois sur le même pied, là, ça peut t'amener à des dérives assez sérieuses. La description que donne le théologien G.I. Packer, si vous voulez connaître G.I. Packer, qui a écrit « Connaître Dieu », quand il analyse le mouvement du charismatisme, il qualifie d'espèce de caméléon qui s'adapte à la couleur de la théologie et de la piété de son milieu ambiant, et qui est capable de changer de couleur lorsque les facteurs environnants se modifient, s'applique fort bien à la troisième vague. Autrement dit, dépendamment du milieu ou du pays dans lequel tu te trouves, ou du contexte dans lequel tu te trouves, tu es comme un caméléon, tu t'adaptes. Alors le but de tout ça, bien entendu, est de ramener tout ce monde-là sous le même chapeau. Alors, le développement contemporain. Il y a eu certains, bien sûr, il faudrait aller beaucoup plus loin, qu'on voudrait regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Full Gospel Businessmen Fellowship. Quand j'étais à Sherbrooke, dans le milieu chrétien, chaque vendredi soir, il y avait une assemblée dans un hôtel de Sherbrooke. Full Gospel Businessmen Fellowship, c'est supposément un mouvement d'hommes d'affaires. Mais ouais, c'est les hommes du plein évangile, c'est ça. Et ça l'a beaucoup contribué à l'intérieur des villes à ramener tout le monde ensemble et à abaisser un petit peu les barrières dénominationnelles. Et un autre qui a beaucoup contribué au développement de tout ça, c'est Oral Roberts, qui n'a pas entendu parler de Oral Roberts. Alors, ils ont été utilisés, bien entendu, ces mouvements-là, avec leurs outils de communication Parce que, et là, je suis loin de faire la liste complète de tout le développement contemporain. Mais il y avait la radio, la télé, les rallyes, le magazine Abundant Life et aussi des guérisons. Alors, les caractéristiques du mouvement charismatique pentecôtiste, international, interdénominationnel, favorise l'œcuménisme. Alors, j'ai fait un paragraphe concernant des leaders. Bien entendu, je n'ai pas fait la liste complète, mais j'ai peut-être fait la liste de tous les plus connus. Oral Roberts, Pat Robertson, Jimmy Baker, David Duplessis. Lui, là, je me souviens quand j'étais à Cornwall, quand on écoutait la télévision TBN, on entendait souvent parler de l'influence de cet homme-là qui est énorme. Rex Humbert, Nicky Cruz, Pat Boone, Benny Hinn, Paul et Jane Crouch. Alors, Paul et Jane Crouch étaient les propriétaires du gros réseau Trinity Broadcasting Network, qui est énorme. Ils ont des moyens financiers énormes. Ils ont des postes de radio et de télévision à travers le monde, dans tous les pays du monde. C'est vraiment énorme comme influence. Fred Price, Kenneth Copeland et beaucoup d'autres. Alors, ça, ces gens-là travaillent dans le même sens. Bien entendu, tout ça a fini par former un réseau bien organisé, bien structuré, donc avec un réseau éducatif, avec leurs écoles bibliques, leurs universités, des médias comme Trinity Broadcasting, TBN, la radio, les journaux, les magazines comme Voice et Charisma. Ils ont, bien entendu, tout cela organisé régulièrement des réunions à tous les niveaux, localement, régionalement, nationalement et internationalement. Dans le côté francophone, une de leurs maisons d'édition, c'est Vida. Bien entendu, au cours de toutes ces années d'existence, ils ont développé des liens avec le catholicisme, le Nouvel Âge et le néo-évangélisme, qui était notre leçon de la semaine passée. Alors, on voit que, dans le fond, le but est de ramener tout le monde sous la jupe-romaine, qu'on pourrait dire. Leur philosophie de base, alors, ils ne se séparent pas des libéraux en théologie. Ils ont un esprit en général écuménique. Ils font favoriser le pluralisme théologique, qu'on a dit tantôt, l'inclusivisme. Ils ont, en général, une croyance et des pratiques communes, comme la glossolalie, le parler en langue, le baptême de l'esprit, eux, ils croient que c'est les prophéties. Tout le monde fait des prophéties, des guérisons, l'imposition des mains, des miracles et des révélations extra-bibliques. Là, qui vont dire, ah, il y a un ange qui m'est apparu, il m'a dit telle affaire, telle affaire, telle affaire. Alors, des pratiques communes aussi, souvent dans ce milieu-là, on va pratiquer des exorcismes. Souvent dans ce milieu-là aussi, on va voir l'utilisation de la musique du monde dans les cultes. Ce qu'on appelle aussi la prière de la foi. La prière de la foi, c'est tout simplement vouloir dire aux gens, comme chrétien, tu as droit de passer des commandes à Dieu. Parce que c'est comme si Dieu te doit des choses et tu commandes. Tu fais ta commande, puis Dieu est supposé te livrer. C'est bien gros développé dans le milieu, certains milieux pentecôtistes. Et, bien entendu, ce qui les caractérise en général, c'est des cultes flamboyants. Bien sûr, il faudra faire des distinctions dépendamment du milieu, du pays, de la ville, du leader, mais en général, c'est assez flamboyant comme en général. Alors, quelles sont leurs croyances communes? Souvent, on va prêcher l'évangile de la prospérité. Je me souviens de lui à TBN, on l'écoutait, John Avanzini, il disait « Child of God », en voulant dire « tu as le droit à la prospérité », puis là, il prenait des versets « Dieu veut que vous soyez » et il cherche à dire aux gens que c'est pas un privilège que Dieu t'accorde la richesse, c'est ton droit. Et il veut, et là, il dit, si tu m'envoies 100$, ben là, il prend des versets pour dire que tu vas être récompensé en recevant au décuplé et centuplé. Alors, bien entendu, il y a des gens là-dedans qui font la promotion de ça et peut-être que leur motif n'est pas tout à fait pur. Alors, l'évangile de la prospérité, souvent, c'est les femmes pasteurs. Ça, c'est un autre phénomène que dans le milieu pentecôtiste, en général, c'est répandu. Les cheveux longs pour les hommes, les pertes de contrôle de soi sous toutes sortes de formes, les convulsions, les comportements bizarres, les cris, les rires compulsifs, les voyages dans le ciel ou dans l'enfer. Souvent, je vous l'ai dit, j'ai été témoin de ça à TBN, des gens qui viennent témoigner à des émissions qu'ils ont été transportés en enfer, ils ont vu des choses, ben non, qui ont été transportés au ciel, qui ont vu des choses, que Dieu leur a parlé personnellement. Mm. Et ça, c'est très courant. Là. TBN, là, si vous écoutez TBN pour 6 mois et vous ne voyez pas ça, c'est parce que ça a changé, mais ça me surprendrait. Mm. Des dons de la foi, comme « donne et tu recevras le centuple », la tolérance de péchés flagrants dans certains milieux. Alors, dans certains milieux pentecôtistes, il y a vraiment une tolérance face à l'homosexualité, le divorce, la prostitution, les drogues et la mondanité. Alors, les mains en l'air, ça, c'est comme presque universel chez eux. Et les louanges libres. Alors, les louanges libres, c'est que tout le monde se met à parler en même temps. Et les Écritures nous disent bien que, oui, si quelqu'un parle en langue, à quelque part, il se pourrait d'avoir quelqu'un qui interprète, sinon taisez-vous. Mais tu vois rarement cette pratique faite selon la Bible. Alors, les comportements communs, bien entendu, ils mettent une forte emphase qui est mise sur l'expérience plutôt que sur les Écritures. Alors, en général, les cultes pentecôtistes charismatiques vont avoir plus de la proportion de temps consacré à l'expérience, à la louange, à la musique, est toujours beaucoup plus importante que celui accordé aux Écritures. Alors ça, c'est... Après ça, il y a toute l'idée du miraculeux. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait des gens qui disaient qu'aux États-Unis, il y avait de la poussière d'or qui tombait sur les pages des Bibles, et toutes sortes de choses semblables. Alors, la place du miraculeux. Aussi, l'idée de l'unité. Il faut absolument arrêter de parler de doctrine, parce que la doctrine divise. Il faut s'unir à tout prix. Ça vient de la troisième vague. Et le rejet de la doctrine, bien entendu. Leur doctrine, si tu ne t'ostines pas contre leur doctrine, tu n'as pas de problème. Mais si tu commences à dire « l'arménianisme n'est pas correct, le baptême du Saint-Esprit, vous êtes dans l'erreur, le retour du Seigneur, c'est pas dans la... » Et si tu commences, bien là, bien entendu, ils ne voudront pas en parler parce qu'ils ne veulent pas entendre parler. Alors, en général. Alors, aussi, il y a une utilisation abondante de ce qu'ils appellent en anglais des buzzwords. Buzzwords, c'est vraiment des mots passe-partout, des mots qui reviennent constamment dans leur conversation. Comme le mot anointed. Si jamais tu écoutes TBN, tu vas voir que le mot anointed revient de façon récurrente, continuelle, pour dire que si un homme dit telle chose, c'est parce qu'il est loin de l'esprit. Est-ce que c'est vraiment l'esprit, le Saint-Esprit? Ça, c'est une autre affaire. Et ils vont utiliser continuellement aussi le mot revival. Pourquoi on a fait ici une série, on a parlé un petit peu plus des réveils, on l'a développé un peu, justement pour montrer qu'historiquement, il y a une différence entre les véritables réveils souverains donnés par le Seigneur lui-même et ce qu'on appelle en anglais, ils appellent ça revivalism. Alors pour eux, tout ce qu'ils voient, que si en Afrique, il y a un gros mouvement de croissance, « there's a great revival in Africa ». Et là, ils ont ce mot-là à la bouche continuellement. Et ils vont souvent parler de leurs expériences. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai connu telle affaire, telle expérience, mon cœur. Et souvent, les expériences vont prendre une place très importante. Et aussi l'imposition des mains. Dans beaucoup d'églises pentecôtistes, ça va être par l'imposition des mains que tu vas recevoir le don, supposément, de parler en langue. Alors, je me souviens d'avoir vu des scènes à la télévision. Un pasteur mettait les mains sur la tête de quelqu'un et puis la personne levait d'au moins un pied, comme un popcorn. Qu'est-ce qui se passait exactement? Je ne pourrais pas vous l'expliquer, là, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, l'imposition des mains tient une place très importante dans leur... Alors, le deuxième point qu'on va regarder, qu'est-ce que croient généralement les pentecôtistes charismatiques? Alors, j'ai mis 8 ou 10 points. Là. Le premier point... Pour eux autres, ce qui est très important, c'est l'omniprésence de l'amour et de l'unité. Alors, le mot « amour » est très souvent utilisé, et le mot « unité » aussi. Deuxièmement, la non-cessation des dons spirituels. On sait que nous, comme réformés baptistes, on est cessationnistes, donc on croit que c'est arrêté. Eux disent que non, ça existe encore. La glossolalie, l'interprétation des langues, la prophétie, les miracles et les révélations extra-bibliques. Alors, pour eux, tout ça continue d'exister et ils défendent leur point de vue avec des versets, bien entendu. Et la troisième chose qui est présente dans leur milieu, c'est que nous sommes au cœur d'un grand réveil. Des langues, des guérisons, des manifestations du Saint-Esprit, des conversions massives, des apparitions, des visions, des regains de piété. Alors, je vous réfère aux leçons précédentes qu'on a eues pour différencier les véritables réveils du revivalisme. Quatrièmement, que les chrétiens sont à la veille de conquérir le monde par l'Évangile. Ça, c'est vraiment un peu l'idée du reconstructionnisme, de penser que le christianisme va finir par dominer le monde politiquement, par les idées, etc. Aussi, que le Saint-Esprit travaille et se manifeste de façon spectaculaire. Là, je vais donner un exemple, mais on pourrait en citer plein d'exemples. Par exemple, que de la poudre d'or qui tombe sur les feuilles des Bibles et aussi toutes sortes d'autres façons qu'ils voient, eux, la manifestation du Saint-Esprit. Autre croyance, c'est que Dieu est au service des chrétiens, au lieu que ce soit les chrétiens qui soient au service de Dieu. Autre, que les cultes à Dieu doivent se moderniser. Musique moderne, spectacle, manifestation d'esprit, tomber sur le dos, mourir dans le Saint-Esprit, ce qu'ils appellent eux « slain in the spirit ». Alors, ceux qui sont intéressés, ils ont juste à aller regarder tous les phénomènes qui se passaient à Toronto Airport, et bien, pas juste à Toronto, mais dans plein d'églises aux États-Unis. Aussi, que les chrétiens conservateurs sont bornés, obtus, manquant d'amour, etc. Alors, souvent, la façon de percevoir ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils nous regardent de haut. C'est comme... Aussi, que les chrétiens peuvent prêter foi aux révélations extra-bibliques. Alors, quand quelqu'un affirme qu'il est allé au ciel, ou qu'il est allé en enfer, ou que, je ne sais pas moi, qu'il a parlé avec un saint, que Dieu lui a parlé, dans ce milieu-là, il y a beaucoup, les gens vont recevoir cela sans beaucoup d'esprit critique. Et, bien entendu, la psychologie mondaine a été vraiment utilisée avec la Bible dans ces milieux-là, souvent. Et aussi que participer aux œuvres œcuméniques est correct. Campagne d'évangélisation, Promise Keeper, version moderne libérale pour les Saintes Écritures, etc., etc. On pourra faire une longue liste. Donc, on a vu en gros qu'est-ce qui les caractérise. Maintenant, les applications. Je pense que ça nous amène à réfléchir à certains avertissements que le Seigneur nous a donnés. Par exemple, dans Matthieu 7, 21-27, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, je les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. 1 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. » Apocalypse 20, versets 29 et 30, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Que notre grand Dieu nous donne de la sagesse et du discernement en ces temps difficiles pour sa gloire. Amen.